VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Merci d'être avec moi, Eric Manirakiza, en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington. C'est votre rendez-vous du monde aujourd'hui, édition du 4 avril 2017, la première de la soirée. D'abord le sommaire. RDC, Joseph Kabila continue les consultations pour l'application de l'accord de sortie de crise du 31 décembre, mais le rassemblement refuse de coopérer. Afrique du Sud, la COSATU, principal syndicat et partenaire clé de l'ANC, retire sa confiance au président Zuma et lui demande à démissionner. Une nouvelle attaque chimique en Syrie provoque l'indignation de nombreuses capitales. Une commission de l'ONU enquête. En sport, l'entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, croit encore possible d'accrocher une place en Ligue des Champions avant la fin de la saison. Bienvenue et merci pour votre fidélité sur VOA Afrique. Je vous le disais dans les titres, la fronde anti-Zuma se durcit en Afrique du Sud. Le principal syndicat, la COSATU, et allié historique de l'ANC au pouvoir, a appelé aujourd'hui à la démission du chef de l'État. Cette situation est née d'un remaniement ministériel qui a plongé le pays arc-en-ciel dans l'incertitude politique et économique, avec notamment le limogeage du ministre des Finances, Pravin Gordhan. Abdulrahman Dia.
Pour le secrétaire général de la Confédération syndicale de la COSATU, Beki Chalin Chali, le moment est venu pour M. Zuma de démissionner à la suite de ce remaniement qui a notamment écarté du gouvernement le très respecté ministre des Finances. Cette décision de faire partir Pravin Gordhan a contribué à la dégradation hier de la note de l'Afrique du Sud par l'agence Standard & Poor's. Dès l'annonce du remaniement ministériel, plusieurs personnalités influentes de l'ANC ont dénoncé la décision du président Zuma, qui a nommé des personnes proches de lui comme membres de la nouvelle équipe gouvernementale, alors que M. Gordhan était considéré par les investisseurs comme le dernier rempart contre la corruption au sein du régime. D'ailleurs, la bourse de Johannesburg et le rand, la monnaie sud-africaine, continuent de chuter depuis le limogeage de M. Gordhan. Aujourd'hui, à la suite de la COSATU, le comité des anciens de l'ANC, forte de 150 membres, a appelé le président Zuma à prendre la décision qui l'honorerait, c'est-à-dire rendre le tablier. Mais ce dernier, pour le moment, s'est contenté de dire qu'il était fier de son nouveau gouvernement, ce qui est loin de faire taire ses critiques.
Abdulrahman Dia, le président de la RDC, Joseph Kabila, a bouclé aujourd'hui ses 2 jours de consultation pour obtenir l'application de l'accord politique du 31 décembre 2016. Cette démarche a été initiée à la suite de l'échec du dialogue facilité par des évêques catholiques du Congo. M. Kabila a rencontré tour à tour différentes parties prenantes, mais le rassemblement sous la houlette de Félix Tshisekedi a boycotté l'entretien. Joseph Kabila doit s'exprimer demain devant le Parlement réuni en congrès. Les détails de Thierry Kambondi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Au deuxième et dernier jour de ses consultations, Joseph Kabila a échangé avec l'aile du rassemblement que dirige Joseph Olenankoy. Son porte-parole, Bruno Tshibala, a affirmé que la délégation a déposé ses propositions pour accélérer la mise en œuvre de l'accord avant d'annoncer sa candidature au poste de Premier ministre. Ensuite, c'était au tour du Front pour le respect de la Constitution qui, en l'absence de Eve Bazaïba, était conduit par Fidel Babala. Le secrétaire général adjoint du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba a rappelé que le FRC ne va pas participer au prochain gouvernement et donc qu'il est le mieux placé pour prendre la présidence du Conseil national de suivi de l'accord. Le dernier groupe à être reçu fut la majorité présidentielle qui, sous la conduite de son secrétaire général Obé Minaku, a signifié que Joseph Kabila va user de son pouvoir d'arbitrage et ne fera donc plus appel à la Conférence épiscopale nationale du Congo pour obtenir l'application de l'accord du 31 décembre dernier. Mais alors que l'on croyait les travaux bouclés, arriva au palais de la nation Valentin Moubaké. L'ancien conseiller politique d'Étienne Tshisekedi, membre du rassemblement que dirige Félix Tshisekedi, a dit avoir rencontré le président Kabila en tant que personnalité politique et espère que ces consultations soient menées à bon terme. Le grand absent de ces consultations, c'est donc le rassemblement de Félix Tshisekedi qui, dans un communiqué, les a qualifiés d'inappropriés parce que, selon lui, en dehors de l'accord du 31 décembre 2016. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Toujours en RDC, un officier de police et trois civils sont morts aujourd'hui dans des heurts dans une gare du sud-est du pays. Et dans la partie australe du continent, un vent d'un réel changement souffle sur la Gambie. Ce pays tient jeudi ses premières élections législatives post-Yahya Jammeh. Sous l'ancien président, l'Assemblée nationale du pays était perçue comme une simple chambre d'enregistrement. Des responsables de la sécurité et du renseignement d'une trentaine de pays africains sont réunis depuis hier dans la capitale soudanaise, Khartoum, pour évoquer la lutte contre les djihadistes. Ils conviennent déjà que le terrorisme constitue une menace grandissante sur le continent. La Tunisie veut reprendre ses relations diplomatiques avec la Syrie. Le divorce entre Tunis et Damas a été consommé il y a 5 ans avec l'expulsion de l'ambassadeur de Syrie. Le chef de l'État tunisien, Beji Caïd Essebsi, protestait contre la répression sanglante menée par le régime de Bachar al-Assad contre ses opposants au début de la guerre civile.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, une commission de l'ONU enquête sur l'attaque chimique. Cette nouvelle attaque a visé la ville de Khan Sheikhoun dans le nord-est du pays. L'on compte plus de 70 morts, dont 9 enfants. L'opposition syrienne, Paris et Londres pointaient du doigt le régime de Bachar al-Assad. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC, se dit gravement préoccupée. Les précisions de Blanche Salon.
L'OIAC a réitéré dans ses communiqués sa condamnation de l'utilisation d'armes chimiques par quiconque, en tout lieu et dans toutes les circonstances. Elle a annoncé avoir commencé à rassembler et analyser des informations de toutes les sources disponibles et compte présenter ses conclusions par la suite. L'organisation avait indiqué début mars qu'elle enquêtait sur 8 attaques présumées au gaz toxique commises depuis le début de 2017 en Syrie, en plus d'une vingtaine d'accusations sur l'utilisation d'armes chimiques entre août et mi-novembre. Dans un communiqué publié ce mardi, la coalition nationale, importante composante de l'opposition syrienne, a accusé le régime syrien d'avoir mené des raids sur la ville de Khan Sheikhoun avec des obus contenant du gaz chimique, une accusation rejetée par le gouvernement syrien. Le raid aérien a frappé tôt Khan Sheikhoun dans la province d'Idleb, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui dénombre au moins 9 enfants parmi les victimes. La province d'Idleb est contrôlée par des rebelles qui se battent contre le régime du président Bachar al-Assad depuis 2001, une guerre qui a fait plus de 400 000 morts et des milliers de déplacés.
Selon l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, M. Domistura, New York cherchera à clairement identifier les responsabilités de l'attaque chimique et à faire rendre des comptes à ses auteurs. Cet incident intervient quelque temps après un nouveau cycle de négociations indirectes entre l'opposition et le régime de Bachar al-Assad à Genève. Des élus républicains du Congrès américain ont appelé le président Donald Trump à réagir fermement contre Damas. Jusque-là, ni la Maison-Blanche ni le Département d'État n'avaient réagi. En revanche, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou estime que le monde doit débarrasser la Syrie des armes chimiques. Bruxelles accueille jusqu'à demain une conférence internationale sur l'avenir de la Syrie. Mais l'espoir de mettre fin à la guerre qui déchire ce pays depuis 6 ans reste minime. Et l'attentat d'hier dans le métro de Saint-Pétersbourg en Russie a été attribué à un kamikaze de 22 ans né au Kyrgyzstan. Cet attentat qui a emporté 14 vies humaines a suscité de nombreuses réactions dans le monde. Les précisions de John Linden.
Au moins 14 personnes ont péri dans l'explosion et 49 ont été blessées dans l'ancienne capitale impériale où un deuil de 3 jours a été décrété. Le kamikaze avait également déposé une seconde bombe désamorcée à temps dans une autre station du centre-ville. L'attentat, qui n'a pas été revendiqué, intervient alors que le groupe État islamique a appelé à frapper la Russie en réponse à son intervention en soutien aux forces de Bachar al-Assad en Syrie fin septembre 2015. Le président Vladimir Poutine a déposé dans la soirée un bouquet de fleurs rouges devant la station où s'est immobilisée la rame visée. La chancelière allemande et le président français ont souligné mardi l'importance de renforcer la coopération pour lutter contre la menace terroriste commune pour tous les États lors d'un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a fermement condamné un attentat terroriste barbare et lâche. Lors d'un entretien téléphonique avec M. Poutine, Donald Trump a lui dénoncé un attentat absolument horrible, assurant le soutien total de Washington à la réponse qu'apportera Moscou à cette attaque, selon un communiqué de la Maison-Blanche.
C'était votre journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique, la chronique de la Minute Éco est signée Jacques Aristide.
Le nouveau ministre sud-africain des Finances a déclaré aujourd'hui que le gouvernement allait déployer davantage d'efforts pour croître l'économie du pays et prendrait à bras le corps les problèmes soulevés par les agences de notation. Maloussi Kigaba réagissait à la dégradation par l'agence Standard & Poor's de la note pour l'Afrique du Sud, désormais notée BB+. L'agence blâme l'incertitude politique et institutionnelle après le récent remaniement ministériel controversé décidé par le président Jacob Zuma. D'après elle, les changements font peser des risques sur les perspectives de croissance et de stabilité budgétaire. La Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 253 millions de dollars pour la construction d'une autoroute de 118 km reliant le Kenya et l'Ouganda. Le projet vise à réduire le temps de transit sur l'axe Kapchowa-Suam côté ougandais et Suam-Kitale côté kényan, afin notamment de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Le Royaume-Uni a doublé son financement à l'export pour le Rwanda de 50 millions à 100 millions de livres sterling, annonce de l'envoyé commercial britannique au Rwanda, Lord Dollar Popat. Cela signifie que les entreprises britanniques disposeront désormais d'une avance plus conséquente pour exporter leurs produits, services et expertise vers le marché rwandais.
Eh bien, nous retrouvons Nicolas Pinault pour les sports. Bonsoir, Nico.
Bonsoir, Eric. Bonsoir à tous.
On commence par le Ghana. Il y a un nouveau sélectionneur.
Le technicien ghanéen James Kwesi Appiah a été nommé pour 2 ans comme sélectionneur des Black Stars, l'équipe nationale de football du Ghana. Âgé de 56 ans, Appiah, qui avait dirigé la sélection de 2012 à 2014, prendra ses fonctions à partir du 1er mai. Il avait été remplacé par l'Israélien Avram Grant après la contre-performance des Black Stars au Mondial 2014 au Brésil, où ils avaient été éliminés dès le premier tour. On se souvient que Grant était parti en février dernier après l'échec de la CAN au Gabon où les Black Stars avaient terminé 4e du tournoi.
Le Cameroun en reparle des sanctions possibles après l'affaire du repas de Bruxelles, n'est-ce pas Nico ?
L'affaire des lions indomptables du Cameroun, interdit de déjeuner dans un hôtel de Bruxelles, fait l'objet d'une réunion depuis la mi-journée au ministère des Sports du Cameroun. De nombreuses personnes sont convoquées par le gouvernement camerounais pour dégager les responsabilités de cet incident et elles doivent répondre face à des hauts gradés, un général de la gendarmerie, 2 commissaires de police mènent l'enquête. La réunion se poursuit. Hugo Brousse, le sélectionneur, est sur place. Il est entendu comme témoin. Nous signale le correspondant de VOA Afrique à Yaoundé, Emmanuel Jules Tap.
Et le verdict de la CAF contre le RCK au Burkina.
Ah oui, le verdict de la Confédération africaine de football sur la bagarre à la fin du match entre le Rai Club du Kadiogo et l'USM Alger est tombé. Le coach du RCK est suspendu. Amende de 30 000 dollars contre le club et 8 matchs à 8 clos, dont 4 avec sursis.
En Angleterre, Nico, Arsène Wenger est très confiant. Il pense que Arsenal peut encore accrocher la Ligue des Champions.
Actuellement 6e de la Première Ligue, à 7 points de la 4e place, synonyme d'accès au barrage pour la Ligue des Champions, Arsène Wenger estime que Arsenal peut encore finir dans les 4 premiers, estime son entraîneur Arsène Wenger. Depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe londonienne, Arsenal a toujours terminé dans les 4 premiers du championnat. Dimanche, les Gunners ont été sauvés de la défaite par Mustafi qui a égalisé devant Manchester City 2-2, offrant ainsi le premier point en 3 matchs de Premier League à Wenger. Arsène Wenger, 67 ans, entraîneur d'Arsenal depuis 2 décennies, au cours desquelles il a mené le club vers 3 titres de Premier League.
Et avant de nous quitter, la NBA, championnat de basket nord-américain.
Un seul match hier soir, c'était Portland contre Minnesota, victoire de Minnesota 110-109. L'attention de la soirée, c'était surtout la finale du championnat universitaire de basket entre les Tar Heels de Caroline du Nord et les Bulldogs de Gonzaga. Les Tar Heels sont les nouveaux champions universitaires avec une victoire 71-65.
Et c'est tout pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manirakiza, en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington, pour aborder la seconde partie de votre édition. En Afrique du Sud, le grand coup de balai au sein du gouvernement fait des remous au sein du Congrès national africain. Le parti au pouvoir, plus que jamais divisé. L'opposition veut s'engouffrer dans la brèche pour déposer une énième motion de censure contre le président Jacob Zuma. Claire Morin-Jubourg a joint la politologue spécialiste de la nation arc-en-ciel, Marianne Séverin.
Quasiment à la même époque, l'année dernière, il s'est produit exactement la même chose et Jacob Zuma n'est pas parti. Déjà, il faut se rappeler qu'il y a quelques jours, au moment où il était en train de remanier son gouvernement, il a fait du chantage en disant que si on le laissait renvoyer l'ancien ministre des Finances, il partirait en janvier 2018, tout simplement parce qu'en décembre 2017, il y a le renouvellement du bureau de l'ANC et normalement un nouveau président. Et puis, il y a quelque chose de nouveau, c'est que son vice-président a dit ouvertement qu'il n'était pas heureux de ce qui se passe en Afrique du Sud et notamment du renouvellement aussi soudain du gouvernement parce que lui-même l'avait vécu à l'époque du président Thabo Mbeki, à croire que les choses recommencent encore et encore.
Pour vous, Jacob Zuma est vraiment indéboulonnable. Est-ce que ses appels à la démission et peut-être également des réactions citoyennes ne peuvent pas le pousser au départ ?
S'il n'a pas envie de partir, il ne partira pas parce que finalement la Constitution ne l'oblige pas à partir. Puis il avait le droit de renouveler son gouvernement. Simplement, c'est que renouveler un gouvernement avec des gens dits incompétents pour des raisons obscures, c'est ce qu'on appelle de la mauvaise gouvernance. Et le problème, c'est que les membres de l'ANC qui sont au Parlement ont beaucoup à perdre en le faisant renvoyer, mais surtout encore plus à perdre si on découvre qui a voté contre lui.
Vous pensez qu'ils ont peur, d'une certaine manière, qu'ils auraient peur des conséquences?
Oui, parce qu'en décembre 2017, dans quelques mois, il y a le renouvellement de l'exécutif au sein de l'ANC, et tout de suite après, on commence à rentrer dans une campagne électorale, puisque les prochaines élections, c'est en 2019, en fait, l'ANC se retrouve à un croisé des chemins, soit elle se renouvelle, soit elle prend une décision sans avoir peur, ou les prochaines élections de 2019, et bien on verra un peu moins de députés du Congrès national africain, et peut-être qu'on verra l'opposition à la tête de l'Afrique du Sud, parce que Zuma n'a pas envie de partir. Il ne montre pas vraiment le visage de quelqu'un qui, pour le bien de son pays, va partir. Il est tout le contraire de l'ex-président Thabo Mbeki, qui lui avait pris la décision de partir.
Marianne Séverin, docteur en sciences politiques et spécialiste de l'Afrique du Sud. Au Burkina Faso, l'opposition rend son silence. L'Union pour le Progrès et le Changement UPC de Zéphirin Diabré a décidé de manifester le 29 avril prochain pour dénoncer ce qu'elle qualifie de dégradation de situation nationale. Mais Traoré Djibril, le membre de la commission communication du MPP, parti au pouvoir, estime que l'opposition ne peut pas demander de changement sans discipline. Traoré Djibril est au téléphone d'Arzuma Compaoré.
Nous constatons que le défi sécuritaire peine à être relevé par le gouvernement actuel. C'est pourquoi nous trouvons qu'il y a péril en la demeure. La dette intérieure n'étant pas soldée, la question du développement économique étant posée, Donc nous nous trouvions que ce sont les deux pieds de l'existence de l'homme qui fait que nous devrions attirer l'attention du gouvernement, donc tirer la sonnette d'alarme afin qu'il règle au plus vite la question sécuritaire, mais aussi la question économique pour laquelle nous trouvons qu'il y a beaucoup de choses à régler.
De l'autre côté, le pouvoir, quand même, il se défend. Hein. Ils ont réussi quand même à mobiliser plusieurs milliards pour aider l'économie. Qu'est-ce que vous dites?
Oui, les milliards qui sont mobilisés, c'est dans le cadre du PNDS, mais le premier projet, le premier financement ne pourrait être attendu qu'au plus tôt en fin 2017. En termes clairs, ce qu'ils ont comme promesse, ce sont des promesses qui tardent à se concrétiser. Mais au-delà de cela, on ne peut pas gouverner un pays avec des promesses venant de l'extérieur. Il faut arriver à mobiliser les ressources intérieures à travers justement les fiscalités de porte, à travers les recettes internes comme au niveau des domaines, comme au niveau des impôts, pour pouvoir financer l'économie et résoudre les préoccupations des femmes, des jeunes, des fonctionnaires et de beaucoup d'autres acteurs qui attendent que l'État tende la main, notamment les paysans et ceux du secteur informel.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet des relations entre l'opposition et le pouvoir au jour d'aujourd'hui?
Nous avons des camarades qui sont dans l'un ou l'autre camp. Nous sommes des parents dans les relations sociales. Nous sommes des collègues ou des confrères de service. Mais ce que nous nous disons et nous répétons, c'est que si le régime actuel ne se démêle pas, ne se défait pas de ses vieilles habitudes acquises dans le régime passé sous M. Compaoré, on ne pourra jamais sortir de l'ornière. Et en ce moment, on aura fait une élection pour rien. On aura donc fait des votes pour rien avec des gens qui n'ont pas été en mesure, après quelques années, de nous apporter le changement tant attendu. Et on est persuadé maintenant que le vrai changement se serait advenu avec le docteur Désiré Diabri, qui est le chef de file de l'opposition, qui peut apporter une touche nouvelle donc à la marche glorieuse des entreprises vers un avenir radieux.
Traoré Djibril à Ouagadougou dans le pays des hommes intègres.
Dans Washington pour ce jeudi 4 avril, on décrypte le débat autour du franc CFA, la monnaie commune à 15 pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre, héritée de la colonisation française, divise. Autrefois arrimé au franc français, il dispose aujourd'hui d'une parité fixe avec l'euro. Ce lien fort est considéré par beaucoup comme un gage de stabilité. Alors pourquoi tant de polémiques? Êtes-vous pour ou contre son abandon? Si oui, quelles sont les perspectives et alternatives? À qui profite cette monnaie? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h. Temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Le Niger est confronté à de récurrents problèmes dans la fourniture de l'énergie électrique avec notamment des délestages dans la capitale Niamey. Pour parer au plus pressé, le gouvernement a inauguré le week-end dernier une centrale thermique de 100 MW. Notre correspondant à Niamey, Abdelhazak Idrissa, vous parle des implications.
Avec cette centrale, certains Nigériens fondent l'espoir de voir la fin du calvaire des coupures intempestives d'électricité, notamment dans la ville de Niamey.
L'inauguration de la centrale électrique de Gourbanda est arrivée assez opportunément et pour nous permettre d'espérer la résolution de ce problème d'électricité. Et vraiment, j'ai bon espoir que ce problème peut être résolu.
Vraiment, c'est un ouf de soulagement et puis Dieu merci.
Ça fait des années qu'on attend ça.
Il y a aussi à côté une grande majorité qui ne croit pas du tout à cela.
Actuellement, nous sommes dans la coupure. Donc vraiment, on ne peut pas dire qu'on a cet espoir-là. Même hier soir, il a eu coupure ici plus de 2 heures de temps. Donc on ne peut pas dire qu'on a cet espoir-là, vraiment.
On nous a dit que ça peut couvrir l'ensemble des régions de Niamey, y compris la région de Télabé. Le jour et le lendemain de cette inauguration, on a observé des coupures d'électricité dans la capitale.
Vraiment, je n'ai pas confiance. Mais on le souhaiterait quand même. Que les délestages se diminuent.
Gourbanda, c'est bien, mais on constate aussi que dès le jour même de l'inauguration, il y a eu au moins 2 coupures. Parce que ce, dans l'entendement des citoyens, c'est que après Gourbanda, plus de coupures.
Les responsables de la société nigérienne d'électricité ont pourtant beaucoup communiqué sur le fait que la centrale ne viendra que pour atténuer et non résoudre définitivement les problèmes. Mais au-delà de ces appréhensions, les autres interrogations des citoyens nigériens résident sur le choix voire même d'une centrale thermique, alors que la tendance est au solaire et à l'hydroélectrique, avec notamment le vieux rêve des Nigériens de voir le premier barrage hydroélectrique sur le fleuve qui porte le nom du pays.
Moi, je me demande si les autorités ont fait le choix judicieux en choisissant cette centrale thermique diesel qui va consommer énormément. C'est ça que je me demande.
Et je ne sais pas si c'est bien réfléchi vraiment, mais en tant que citoyen, j'aurais voulu qu'ils investissent vraiment tout cet argent-là dans la finalisation du barrage de Kandaji. Ça allait être une très bonne chose. On allait même pouvoir exporter l'électricité.
Abdullah Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Une véritable révolution dans le domaine du transport public en Côte d'Ivoire. Des bus sont connectés à Internet. De plus en plus des sociétés de transport fonctionnent à l'aide de moyens technologiques. Narita Namasté a voulu savoir comment ces technologies appliquées au secteur du transport urbain est reçue par les Abidjanais.
Je suis en train d'essayer d'établir la connexion. Contrairement aux autres Wi-Fi, celui-là, le code se tape directement dans le navigateur. Et là, le code c'est 5 W I E S. Et j'active.
Le transport urbain, un secteur en pleine révolution avec des taxis et des bus connectés au réseau Internet. Une révolution qui se positionne comme une réponse à un challenge social, celui d'améliorer le transport urbain et de rester toujours connecté à Internet. Noël, informaticienne, emprunte tous les jours le 8 bus pour le confort. Aussi, selon elle, ce système permettra de professionnaliser et sécuriser le transport en Côte d'Ivoire.
C'est sécurisant et puis les conditions sont bonnes en fait. La climatisation et tout, c'est pas trop cher. Moi je quitte Angrais pour arriver à la 2, c'est 250 francs si je prends les Warren. Mais avec le minibus c'est 350 francs de différence, donc ça va quoi.
Marcel, une fois dans le minibus, se connecte sur les réseaux sociaux et parfois consulte ses mails. Mais deux aspects du bus justifient sa fidélité au minibus.
Au niveau de la navigation, les réseaux sociaux, c'est le chaque jour. Le travail, oui, je profite souvent pour balancer des mails, pour recevoir des mails. Mais plus la climatisation, quoi, parce que souvent dans les embouteillages, il fait tellement chaud que s'il y a une opportunité d'être dans le frais, c'est bon, quoi.
Contrairement à beaucoup d'usagers qui utilisent le Wi-Fi pour aller sur les réseaux sociaux, Myriam utilise la connexion du bus qu'à des fins professionnelles.
C'est une innovation parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans la sous-région. Ça nous permet quand même de parer à certaines éventualités en cas d'urgence. Vous devez recevoir un mail ou vous devez envoyer un mail dans un certain délai. Vous n'avez pas pu le faire parce que la connexion au bureau déconne ou parce qu'il se fait tard au bureau que vous devez rentrer. Ou... Il peut toujours avoir ce genre de problème-là. Donc dans le 8 bus, vous avez la possibilité de gérer ce problème facilement.
Marcel et Noël nous expliquent les difficultés qu'ils rencontrent souvent avec la connexion Internet de ce bus.
Sur 5 bus, il y a 3 qui sont bons et puis il y a souvent 2 qui ne sont pas connectés. Hein. À chaque fois, les machinistes disent qu'ils vont réparer ou bien faire savoir ça à leur service technique. C'est le constat. Quoi.
Ça ne passe jamais chez moi, quand je suis dans le bus en tout cas. J'ai même changé de téléphone, je pensais que c'était par rapport à l'autre téléphone, mais les deux c'est pareil.
D'une capacité de 27 places, ces minibus climatisés dotés de Wi-Fi et de caméras de sécurité militent pour plus de confort et de sécurité dans le déplacement des riverains de Cocody, première commune à bénéficier du réseau de proximité. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Et c'est la fin de cette édition. La mise en onde de Joselle Morissin, à la console Nelson Lopez, à la présentation Eric Manirakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24 heures. Avant de vous quitter, juste pour vous dire que la vie vous donne toujours une seconde chance qui s'appelle demain. Portez-vous bien. Je vous donne le prochain rendez-vous à 19h30, temps universel.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.